C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudedi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Bonjour. Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Tom Villet. Tanguy Bassureau sera là tout à l'heure et notre invité Raphaël Persona. Ravi de vous accueillir, Raphaël. Vous êtes chez vous ici, vous le savez.
Merci.
Non, mais vraiment, sincèrement, on adore votre jeu. Voilà. On adore votre jeu. On adore ce de. On vous a vu au théâtre, on vous a vu au cinéma, et ça fait plusieurs fois que vous venez maintenant depuis cette quatrième saison de la bande originale. Et on aime l'être humain. Donc voilà, je tiens à vous le dire. C'est un mec bien.
Merci. Moi, je me sens toujours bien ici.
Ce qui n'est pas le cas de tous les gens autour de cette table. Alors, Raphaël.
Ouais, moi, j'aime bien Marina. Vous...
Marina n'est pas un mec bien. C'est ça la différence. C'est ça. Raphaël, vous êtes sur la scène du théâtre du Rond-Point jusqu'au 10 décembre avec Vous n'aurez pas ma haine. En disant le titre, on a déjà tout compris. C'est-à-dire, on a en tête les attentats évidemment du Bataclan d'il y a 2 ans. On a en tête la lettre qui a été écrite par Antoine Léris. On a en tête le livre qui en est venu. Quel est le travail d'ailleurs, le process exact depuis cette lettre, ce livre? Il y a eu l'adaptation. Vous avez eu connaissance du projet à quel moment?
Il y a peut-être un an, on m'a appelé, en l'occurrence mon agent qui m'a dit voilà, il y a ce texte, est-ce que tu l'as lu? Moi je l'avais pas lu, j'avais juste lu le post Facebook, j'avais vu Léris à la télévision parler du livre. J'avais été frappé par sa dignité, sa pudeur, sa grâce, et puis même il arrivait à se tenir debout là où on était sans mots, il arrivait à mettre des mots sur sa colère, sur sa douleur. Et alors donc j'ai lu le texte, j'étais vraiment pas sûr que ça puisse faire une adaptation théâtrale ou un objet théâtral. On peut pas vraiment appeler ça un spectacle ni une lecture, il s'agissait pas de lire un peu comme ça bêtement. Donc j'ai eu des doutes, et puis j'ai appelé le metteur en scène qui s'appelle Benjamin Guillard. Ouais.
Qui a fait une sorte d'adaptation. Je ne sais pas si on va parler d'adaptation encore une fois dans ce cas-là, mais il a fait peut-être des
petites coupes, voilà. Mais pas énormément, pas finalement, au final. Et en fait, il avait les mêmes doutes que moi. Donc on s'est rencontrés le lendemain, on l'a lu ensemble à haute voix, enfin je l' ai lu, et ça a été évident. Tout de suite, j'ai senti, même dans son écoute, même dans la manière dont ça se passait entre nous, qu'il fallait le faire. On ne savait pas trop comment, mais on y est allé.
Et j'imagine, quand on est confronté à un texte comme celui-ci, ce n'est pas de la fiction, c'est quand même un événement qui nous a tous absolument bouleversés. Est-ce que, en tant que comédien, on se pose aussi la question de sa légitimité à donner sa voix à Antoine Léris? Est-ce que vous considérez, Raphaël Persona, que vous incarnez sur scène Antoine Léris, ou vous êtes un... Comment vous vous percevez dans cet objet théâtral?
Non, enfin, je me suis jamais dit, il faut que je l'incarne lui, il faut que ça s'est pas passé comme ça. On a eu la chance de travailler sur 5 mois. Vraiment, on a pris le temps. Même de prendre des pauses entre chaque session de travail pour vraiment que les choses se passent inconsciemment. Après, la question de la responsabilité, elle est un peu écrasante au début. Hein. Ouais. Quand vous dites ce texte, déjà émotionnellement, j'avais du mal à le répéter.
On va justement resituer, peut-être que des personnes se mettent à écouter la radio ou débarquent en France sans trop savoir ce qui s'est passé. Donc, évidemment, les attentats du 13 novembre 2015. La situation particulière d'Antoine est d'avoir une épouse, un enfant. Cette épouse va assister au concert. Lui garde l'enfant qui a quelques
17 mois
à la maison. Et il raconte toute cette inquiétude de recevoir des textos avec des potes qui disent, qu'on a tous reçu à Paris. T'es où? Tu vas bien?
Ça va.
Il n'y a pas de problème.
Est-ce que t'es en sécurité?
Voilà, qui étaient les premières questions, même sans savoir ce qui se passait. Je ne sais pas vous, autour de cette table, mais c'était pareil. Je n'étais pas du tout sur la chaîne d'info. Je reçois un texto avec, t'es au Stade de France, t'es au concert, qu'est-ce que tu fais? Avec avec cette inquiétude, cette peur presque de regarder à la télé ce qui se passe, en se demandant qu'est-ce qui se passe, parce que c'est l'innommable, mais aussi le tout le monde est choqué, encore plus évidemment Antoine lorsqu'il envoie des textos à sa femme Hélène pour savoir si elle va bien. Il ne reçoit aucune réponse et il finit par apprendre l'horreur, c'est-à-dire que sa bien-aimée, sa femme, la maman de son fils est victime des attentats de cette folie meurtrière au Bataclan. Il a le le réflexe. Alors, j'ai pas chronologiquement combien de temps il écrit cette lettre qui a été publiée
trois jours après
ça sur Facebook, puis le livre où il raconte justement la manière dont il doit aller expliquer à son enfant ce qui s'est passé, la manière dont il doit aller à la morgue constater le décès de son épouse, la manière dont il doit aller au cimetière avec l'enfant. Il ne veut pas aller au cimetière en présence d'autres, il veut vraiment que ce moment soit un moment
à trois.
Ouais. Mmh. C'est tout un cheminement. Une ode à la vie aussi, parce que c'est la vie reprend ses droits. J'ai même du mal à la raconter. Je vous ai pas vu. Bon, problème d'horaire, c'est à 18h30 et
je fais des carreaux.
Je ne peux pas. À ce moment-là, j'ai lu le texte. J'étais pour l'avoir lu. Avant, on peut pas tenir. Enfin, moi, je suis en larmes quand je lis ce texte, en larmes. Comment
tous les soirs.
Comment le porter tous les soirs sans parce que je suis d'autant plus en larmes que lui a cette élégance et ce recul. Comment avoir cette élégance là et ne pas craquer, vous, être humain. Comment faire la part des choses entre l'être humain
C'est très juste. En fait, je crois que justement, la clé, s'il y en a une, c'est un bien grand mot, mais moi, je pense toujours au visage d'Antoine Léris quand je l'ai vu à la télévision. C'était chez Ruquier, je crois. Oui. Et je me souviens en effet de cette élégance, de cette dignité, de cet homme qui a arrivé à parler, à mettre des mots là où on a tous voulu nous faire taire, ouais, puisque c'est ça, le terrorisme, rien d'autre. Et lui, qui est le plus profondément touché, arrive à trouver cette parole. Et surtout, comme vous le dites, c'est une parole de vie. C'est la vie qui reprend ses droits. Parce que il a pas le choix de toute façon, parce qu'il y a son enfant de 17 mois qui doit amener à la crèche tous les matins. Et puis, il y a des choses comme ça qui arrivent par surprise. Les dames de la crèche.
Les compotes.
Qui amènent des compotes chaque jour.
Les Tupperware.
Pour le petit enfant. Ouais. Des petites choses comme ça de la vie. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, dans les périodes les plus troubles, les plus désespérées, les plus dures qu'on peut tous endurer un jour ou l'autre avec le deuil, etc. C'est souvent dans les enterrements, malgré tout, qu'il y a un fou rire qui arrive. Et il faut pas, d'ailleurs, en avoir peur. C'est au contraire la vie qui reprend ses droits. Donc, moi, je viens toujours sur scène avec cette conscience-là, je me dis, il faut surtout pas que les gens sortent tristes de ce spectacle. Il faut qu'ils en ressortent avec de la beauté, de la lumière, parce que c'est un constat de ce qui s'est passé. On regarde les choses en face, mais on arrive malgré tout à faire en sorte que la vie reprenne ses droits.
Non, et puis c'est une leçon, une véritable leçon d'intelligence que donne Antoine Léris. Vous l'avez rencontré, il est venu vous voir, vous vous êtes parlé.
Non, on s'est pas parlé. Il est au courant du projet, il a accepté évidemment. Moi, j'ai toujours dit s'il veut qu'on se rencontre avec plaisir, s'il veut pas, je comprends tout à fait. Pour l'instant, on s'est pas rencontré. Mais en fait, je crois que je l'ai rencontré il y a 4-5 ans, si je me souviens bien, parce qu'il travaillait pour France Bleu.
C'est un journaliste.
Ouais. Voilà, c'est un journaliste. France, et on avait fait une interview ensemble. Et je me souviens très bien, justement, c'est marrant, ça m'est revenu après, mais je me souviens très bien de justement son élégance, de la manière dont il choisissait les mots aussi. Et ce travail-là sur les mots qu'il a fait, ça aussi, c'est extrêmement important de voir à quel point il a choisi des mots. Il a même mis de la beauté, de la poésie dans son texte. Et pour lui, c'est le rempart face à la douleur.
Vous n'aurez pas ma haine, d'après le récit d'Antoine Léris, donc porté par Raphaël Persona, on va pas dire interprété. Vous le portez.
Transmis.
Voilà. Par Raphaël Persona, c'est au théâtre du Rond-Point.
C'est ce côté médiateur, c'est ce côté entre le texte et les gens, en fait. C'est ça. Vous êtes un passeur. Et moi, je trouve que pour vous avoir vu sur scène, pour avoir été là à 18h30 au théâtre du Rond-Point.
Ça va, ne remue pas.
Mais c'est pour dire que c'est quand même possible.
Bien sûr.
mais c'est important que les auditeurs y aillent parce que.
Non, mais là, on va aller sur la conscience professionnelle. Et là, on est perdu.
Parce qu'il y a le texte qui, en effet, est là, qui est d'une beauté assez magistrale, parce que pas impudique, pas dans une forme de ressenti haineux, c'est vraiment un tour de force exceptionnel. Et se dire que vous êtes sur scène pour transmettre ce texte-là, pour être ce passeur-là, et là encore, que ce soit dans la mise en scène, dans votre jeu, dans la présence aussi de la pianiste qui est sur scène avec vous, là c'était Lucrèce Sacella qui était à vos côtés, il y a quelque chose de très beau, parce que il y a rien d'impudique, parce que votre jeu n'est pas forcé, exacerbé, parce que il y a quelque chose de nu, de simple, et ça, je trouve que c'était le C'était le risque avec un texte comme ça à porter sur scène. C'était le risque.
Alors c'est juste que au 10 décembre au théâtre du Rond-Point, puis vous le reprendrez au théâtre de l'Œuvre du 2 mars au 14 avril. J'espère, Tom Villa, que vous avez bien compris pourquoi Raphaël Persona était notre invité.
Oui, mais il y a un moment où je veux bien déconner sur l'actu de nos invités. Mais là, Alzheimer, l'autisme, Francis Huster. Là maintenant, le 13 novembre, avec Raphaël Persona, voilà, qui vient pour. Vous n'aurez pas ma haine, texte d'Antoine Léris, qui a perdu sa femme, donc on l'a dit, dans l'attentat du Bataclan. C'était il y a 2 ans. Et c'est compliqué, parce que chacun fait comme il peut. Tout le monde a été touché, évidemment plus certains que d'autres, mais je crois qu'il ne faut pas se juger, pas nous en tout cas. Voilà. Faut-il retourner à des concerts, à des spectacles ? Faites comme vous voulez, quoi. Ouais, ce matin, c'est moi la Suisse. Ouais. Non, mais je comprends ceux qui disent la vie doit continuer, tous en terrasse, enfin, tous en terrasse quand elle est chauffée avec une pinte en happy hour, mais. Je comprends aussi ceux qui veulent pas retourner dans des salles de spectacle. J'ai eu ce dilemme il y a peu de temps. Je suis retourné au Bataclan il y a quelques jours et j'avais pas envie. Mais c'était mon copain qui jouait là-bas, Mathieu Madénian, qui bosse à Charlie Hebdo et qui joue un spectacle qui s'appelle En état d'urgence au Bataclan. Voilà. Donc on dit toujours que la foudre frappe jamais deux fois au même endroit. Je crois en la physique et en la science, mais j'avoue que le temps d'un instant, je me suis dit, ça frappe jamais deux fois au même endroit, mais si ça doit retaper, j'ai quand même l'impression d'avoir tous les numéros du loto sans avoir joué, voilà. Puis j'ai décidé de m'y rendre, et j'habite 2 rues derrière le Bataclan, je suis passé à pied, passage Saint-Pierre-Amelot, cette même rue que j'avais presque découvert avec Facebook, en voyant tristement des gens sortir par les issues de secours, s'extraire par les fenêtres, pendus à des rebords de balcon, se jeter du premier étage et ces cris, voilà, ces cris qui résonnaient dans ma tête encore ce soir-là, comme une sorte de train fantôme d'une triste fête foraine de province où les enfants pleurent de fatigue. J'ai accéléré le pas, vite, très vite. Puis je suis rentré dans la salle, assez péniblement, encore hésitant, et on m'a donné mes places, et j'étais assis au dernier rang, à côté de la porte d'entrée principale. Et j'ai eu peur. Et si ça recommençait ? Et si du coup j'étais tristement dans le carré or de l'horreur, quoi. Mais étant arrivé au dernier moment, pour pas avoir à trop regarder cette salle dans ses recoins et imaginer ce qui s'était passé, le spectacle a commencé, vite, et puis j'ai entendu une joie de vivre, un aura que j'avais jamais entendu dans cette salle, ni même dans aucune salle. Mes voisins d'un soir n'avaient, eux, aucun doute, comme une sorte de gros fuck à ces êtres sans âme, et peut-être avaient-ils autant peur que moi, mais on faisait comme si... Comme quand on était enfant et qu'on se jetait les premiers dans la mer froide juste pour montrer qu'on était des bonhommes. Et puis les rires ont écrasé les doutes et on fait oublier quelques minutes le drame qui avait eu lieu ici. Alors voilà, je passe rarement de messages personnels à l'antenne, mais aujourd'hui je me permets. S'il y a des gens de chez Daesh qui nous écoutent, peut-être un délégué syndical, un directeur de la com ou même un attaché de presse. Messieurs de chez Daesh, voilà, on s'excuse, mais la vie est beaucoup trop remplie de trucs qui nous font déjà chier pour en plus passer du temps à vous haïr. Voilà. On voit bien, vous faites des efforts pour qu'on vous haïsse, mais ça marche pas. La preuve, Raphaël Persona joue un texte qui vous rend si petit, voilà, se foutre de votre gueule subtilement avec des mots dans un lieu de culture ouvert à tous, avec en plus de la musique. Voyez bien, vous n'avez pas gagné, voilà. Et si c'est pas clair, je vous informe que c'est une femme qui joue du piano pendant la pièce. Donc là, voilà, c'est plus du mépris, c'est de l'humiliation pour vous, voilà. Puis franchement, quand vous regardez la vie, notre haine, elle est déjà utilisée ailleurs. Rien que ce matin, j'ai eu la haine 3 fois à cause de la météo et du froid qui vient nous fouetter le visage. En scooter, avec ces putains de feuilles mortes qui ont failli me faire tomber 2 fois.
Super dangereux, ça.
Et pour finir, j'ai eu de la haine contre le parking à scooter qui était plein. Du coup, je me suis garé sur le trottoir en étant quasi sûr d'avoir une prune à la fin. J'ai eu 3 fois la haine pour des choses sans âme. Comme vous, voilà. Puis, messieurs de chez Daesh, vous en prenez à la France, le pays des râleurs par excellence. Mauvaise idée. Rien qu'avec nos hommes politiques, on a de la haine pour 3 générations. En plus, en 2017, on a eu des présidentielles avec un second tour Macron-Le Pen. Le Pen, la nana qui suscite de la haine en étant elle-même emplie de haine. Donc, clairement, elle sature l'espace de la haine. Alors, je sais, se faire détrôner par Le Pen, c'est chaud, hein, surtout quand tu vois qu'elle a jamais gagné une élection. Donc, vous voyez, messieurs de chez Daesh, la vie, même si elle est très chiante, est et restera toujours plus forte que vous. Je ne vous haïs pas, mais je ne vous embrasse pas.
Merci, Tom Villa.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et on continuera d'en parler du Bataclan et surtout de l'après-Bataclan, de ce qui se passe aussi pour les victimes de cet attentat, avec Caroline Anglade, qui est la cofondatrice de l'association Life for Paris, qui a signé Sortie de Secours, et qui est une rescapée du Bataclan et qui était pris en otage par les terroristes. Vous n'aurez pas ma haine, Raphaël Persona le porte sur scène au Théâtre du Rond-Point, et vos oreilles ont sifflé de plaisir quand vous avez su que Raphaël revenait dans cette émission.
Oui, quand je pense à
pour la 12e fois en 4 saisons, ça va se voir que c'est un cousin. Hein, ça.
Alors on a parlé de votre maman déjà, Raphaël ensemble, on a parlé de pas mal de trucs ensemble, mais bon, quand je pense à vous quand même, j'ai encore des idées. J'entends ça.
Oui, sûrement.
Du péché, est-ce déjà péché ? L'idée sans l'envie, non.
Et l'idée avec l'envie ?
Si tu m'as trompé sur ton cœur et le sien, face à face, sans merci. Je suis sincèrement jaloux de votre époux.
Pardon ?
Ce que je dis, madame, je vous aime.
Comment osez-vous ? Toute la cour vous dit amoureux d'une autre.
Un jour, repéré de votre vie, c'est de s'outrage. Délivrez-vous.
Oubliez Monsieur de Guise.
On vient de vous entendre, Raphaël, personnage, persona, dans cet extrait, dans le personnage du duc d'Anjou. À vos côtés.
Normalement, on dit Raphaël Personnaz, ceux qui ne savent pas. Donc, nous, on sait qu'on dit Raphaël Persona, mais tu as inventé le Raphaël Personnage.
Donc, à vos côtés, dans ce film, La princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier, Mélanie Thierry, Grégoire le Prince Ringuet, pour replacer Lambert Wilson. Un film qui a été une première étape importante dans votre carrière. Il y en a eu d'autres. Et je crois qu'à cette époque-là, c'était pas... On était un peu au bout du circuit, quoi. Une question sur on continue, on continue pas.
Ouais. Oui, non, ça n'avançait pas. J'avais l'impression de stagner. Donc je me suis dit, je vais faire autre chose, c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est souvent ces moments-là où on lâche un peu que tout arrive. Donc ça a été vraiment un beau concours de circonstances. Mais en même temps, je suis pas sûr. Je crois pas vraiment au hasard.
Ouais,
voilà.
Ouais. Ça faisait combien d'années que vous attendiez qu'il se passe quelque chose ?
10 ans. 10 ans. Après, je travaillais vraiment beaucoup. J'ai eu des super rôles. Mais j'avais l'impression que j'avançais pas. Mais même dans ma vie, c'est pas forcément professionnellement. Mm-hmm. Donc je me disais, je vais pas passer ma vie à attendre le téléphone qui sonne. Je vais faire autre chose. Et puis c'est pas grave. Et puis c'était à ce moment-là que le téléphone a sonné. Ben voilà. Sans vouloir reprendre une émission de France. Et c'était lui.
Et là, c'est Tavernier qui appelle.
C'est Tavernier qui appelle.
Perso.
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais faire un petit rôle de 2 jours dans le film. Et puis, il y a eu le désistement d'un acteur. Et il a demandé à me voir et à ce qu'on fasse une lecture du personnage du duc d'Anjou. Donc, on s'est retrouvés dans une petite salle. Je l'ai lu face à lui. J'étais assez impressionné. Et puis, il m'a dit, voilà, c'est bon, c'est parti. Ça s'est fait de manière
tout de suite après la lecture.
Tout de suite après la lecture. Ouais.
Avec un petit mensonge au passage, on en avait déjà parlé.
Que je faisais du canasson.
Oui.
Oui.
De toute façon, les comédiens, pour accepter, pour obtenir un rôle, ça faire du cheval, de la
tout
moto,
le monde parle
tout. Sûr, mais depuis, ils parlent anglais, ils pilotent des avions, des hélicoptères.
Ils ont tous leur permis de conduire.
Ouais, bien sûr. Il y en a plein qui se sont fait avoir avec ça.
Il y en a même qui jouent Superman, ils savent voler d'un immeuble à l'autre. Ils sont forts.
Aucun problème.
Et qu'est-ce que vous sentiez à l'époque avant cette proposition de Tavernier, qui est assez exceptionnelle? Qu'est-ce qui était le frein à votre sens? C'était vous? C'était le regard qu'on portait sur vous, qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de vous voir dans un rôle pour... Parce qu'ensuite, les propositions se sont enchaînées. Qu'est-ce que... Rétrospectivement.
Je crois que c'est une combinaison de choses. Je pense que j'étais trop en demande volontariste. Et ça, je pense que ça fait peur à tout le monde.
Quand on a trop envie,
même dans le corps, on est trop engagé comme ça. C'est comme un rendez-vous amoureux.
Ça peut passer pour de la suffisance quand vous arrivez devant un directeur de casting ou un metteur en scène. Vous arrivez tellement sûr de vous et de vouloir le rôle qui peut mal le prendre.
Et en fait, je pense qu'au final, c'est un manque de confiance en soi terrible, d'être trop volontariste.
Enfin, 10 ans de manque de confiance, il y en a qui s'arrêtent avant quand même.
Il y en a qui passent 40 ans avec un manque de confiance. Après, on le travaille au jour le jour. Mais non, mais c'est comme dans un rendez-vous amoureux. Si vous êtes trop volontaire, si vous laissez pas l'autre avoir sa place.
Trop mort de faim,
bah, ça fait pas envie.
Tu sais de quoi tu parles.
Je suis en disette permanente.
Il faut laisser la place à l'autre et faire suffisamment confiance aux choses, au hasard de la vie justement, qui vont faire que la vie va vous faire avancer. Ou pas.
En avant-première exclusive sur France Inter, voici le nouveau titre de Noël Gallagher. Ça s'appelle It's a Beautiful World. C'est extrait de l'album Who Built the Moon? Qui a construit la Lune? C'est une bonne question, ça. L'album sortira.
C'est toujours aussi déchiré, les frères Gallagher.
Il n'y en a plus qu'un. Imagine, oui,
hein. C'est vrai. Non, il y a les deux, mais chacun fait un album solo dans son coin.
Voilà. Liam
a fait le sien. Maintenant, c'est Noël qui sort le sien. Il y a un concert Inter. Ça sera ce lundi 20 novembre en direct du studio 105 de 21h à 22h, Noël Gallagher.
We'll be right back.
It's a Beautiful World, ça c'est un message aussi que l'on peut passer aujourd'hui. Noël Gallagher.
J'espère qu'il y a mieux sur l'album.
Il y a mieux sur l'album. L'album sort le 24 novembre. Heureusement que c'est pas un partenariat France Inter, évidemment, que tu soutiens totalement.
Très déplacé.
Le concert, donc, c'est ce lundi 20 novembre. Tu pourras y assister, Daniel.
Avec grand plaisir.
C'est gratuit. C'est au studio 105 de 21h à 22h.
C'est beaucoup trop tard pour lui.
Et France Inter est également partenaire des concerts de Noël Gallagher les 3-4 avril prochains. Ça sera en 2018 et ça sera à l'Olympia. Raphaël Personnel est notre invité. Dans quelques instants, nous allons également accueillir Caroline Langlade pour son livre chez Robert Laffont, Sortie de secours, avec tout ce qui nous questionne finalement, c'est comment gérer l'après. Comment aussi est-ce que elle se pose la question du pourquoi moi, pourquoi elle était dans une loge prise en otage et tous les rescapés se posent toujours la question de savoir pourquoi c'est elle, Hélène, qui a été tuée. C'est ce qu'elle raconte d'ailleurs dans son livre lorsqu'elle a vu cette lettre venant à Hélène. Pourquoi c'est une maman qui a été tuée, pourquoi pas moi, des questions évidemment qui se posent. Elle viendra nous en parler, surtout de la manière dont les victimes de ces attentats peuvent gérer l'après, parce que c'est forcément une fêlure, une marque, une cicatrice qui reste à vie. Tu veux rajouter quelque chose?
Je voulais juste dire que pour revenir au théâtre du Rond-Point, pour avoir vu Raphaël Persona sur scène, que ce soir-là, j'y suis allée mardi soir, on était le 14 novembre, au lendemain des attentats du Bataclan, que j'ai senti quelque chose de très très beau, et Tom l'a esquissé dans son papier, c'est aller au théâtre, ça reprend son sens, c'est être ensemble, c'est être avec beaucoup de gens dans une salle qu'on ne connaît pas, et c'est en même temps être accroché à votre bouche, à vos mots, à ceux d'Antoine Léris, et
c'est être ensemble.
C'est être ensemble.
C'est être au théâtre, c'est être au cinéma, c'est être à un concert, c'est être dans une salle, c'est être entre amis à la terrasse, au resto, être réunis.
Mais là, j'ai repris conscience de ça à cette occasion-là, et je le constate après au quotidien dans tout ce que je fais. Mais là, il y a quelque chose de, on est avec des inconnus.
La force de l'humanité.
Ouais. Et il y a quelque chose qui, ça fait énormément de bien. Et je trouve aussi que le spectacle, même si on a plein de moments de mélancolie et très profonde, il y a aussi des moments de sourire et de rire. Moi, j'ai aussi ri. Ce soir-là.
Et ça fait du bien à tout le monde, j'ai l'impression. Mais ce que vous dites aussi, le jour des attaques de Charlie Hebdo, j'étais au théâtre, je jouais une pièce depuis, je sais pas, 70 fois, et donc c'était sans doute la 71e, et il s'était passé cette horreur dans la journée, et le fait d'être sur scène et de redire les mêmes mots, j'ai compris à certains moments l'impact que pouvaient avoir ces mots justement sur le public. Il s'est passé quelque chose ce soir-là. J'ai ressenti exactement la même chose le 14. La veille, on avait fait une générale, c'était le 13 novembre, j'y arrivais pas. J'avais regardé toute la journée les BFM, etc., j'en pouvais plus, et j'étais plombé. Et le lendemain, par contre, j'ai senti dans la salle une volonté de vivre ensemble, de partager des moments comme ça et d'avoir cette possibilité de s'exprimer ou artistiquement ou de quelque manière que ce soit. Et c'était très présent ce soir-là, en effet.
Mais c'est vrai que ce sentiment de se remettre ensemble, je repense aussi à ce qui s'est passé au Stade de France où il y avait eu aussi des attentats et où les joueurs, c'était un France-Allemagne, et les joueurs de l'équipe de France étaient allés se mettre par terre assis par terre avec les joueurs de l'équipe d'Allemagne, et tout le monde voulait aussi se rassurer et être ensemble. C'était pas une équipe, c'était pas 22 joueurs qui restent dans son vestiaire, les 22 autres non, c'était les 44 agglutinés, serrés à partager ce moment d'humanité. Mais ça recrée l'humanité. Elle va le faire d'ailleurs aussi, créer l'humanité
enfin.
Je vous charge beaucoup. Marina Rollman est sur France Inter.
Oui, alors moi je voulais traiter d'un sujet un petit peu moins grave aujourd'hui, mais je voulais vous dire que j'étais déçue, parce qu'on est vendredi, et j'ai pas exactement calculé, mais il y a dû y avoir environ, je sais pas, 1700 heures d'antenne cette semaine à peu près. Et pourtant personne n'a été fichu de traiter l'info capitale tombée il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'en 2018... les Spice Girls vont se reformer.
Je pense qu'elles vont se reformer parce qu'elles sont bien déformées, en tout cas, pour l'instant.
Non, c'est faux. Quelle manque de vitesse.
Slut shaming dehors.
Oui, absolument. Je pense qu'en plus, tu réalises pas, mais ce que ça peut faire à des femmes de ma génération, donc je vais recontextualiser. Alors, le décor de ma première rencontre avec les Spice Girls est le suivant. On est en 96, j'ai 8 ans et ma vie est super. J'ai une Game Boy. Une fois par semaine, je vais manger des spaghettis au pesto avec toute ma famille dans mon restaurant préféré. Tous les soirs à 19h10 sur RTL 9, j'ai le droit de regarder Friends, où tout le monde est trop cool, trop beau, trop drôle et où l'entièreté du cast féminin a les tétons qui pointent. Et c'était incroyable, hein, il y avait un problème de clim ou je sais pas, mais c'est comme les filles d'à côté, tout le temps quoi, bref. Et le reste du temps, je dessine.
J'avais pas observé ça, mais tu sais quoi, je vais refaire
sûr,
tous les DVD de Friends pour
sûr,
observer.
Tout le temps, à chaque fois que Rachel, elle rentre dans une... C'est
incroyable. Chacun son truc.
Et bref, le reste du temps, je dessinais, enfin j'avais vraiment une vie super. Et un soir, sans suspecter que ma vie est sur le point de changer à tout jamais, je suis dans ma chambre, chez mes parents à Champel, 1206, Genève représente. Et pendant qu'MTV tourne dans le salon, alors je précise pour les plus jeunes, MTV en 96, c'est une chaîne de télévision qui passait des clips musicaux. Et donc, comme tu pouvais pas choisir sur Internet, et bah, tu laissais tourner longtemps, parce que tu savais jamais quand t'allais tomber sur un truc que t'aimais bien. Ouais. Et donc ce soir-là, tout à coup, depuis ma chambre, j'entends les premières notes de Wannabe des Spice Girls, c'est-à-dire les pas, puis le rire de Mel B, suivi du mot yo. Donc je sens qu'un truc est en train de se passer. Je cours au salon, et là, ma tête a explosé. C'était le meilleur truc que j'avais jamais vu de ma vie. Les filles, leurs fringues, la manière de chanter, tout était fou. Et quand je croyais que rien de plus dingue pouvait se passer, hop, Mel C, elle fait un backflip sur une table. Je veux dire, mon cerveau était trop petit pour processer autant de choses chouettes. Je me suis évanouie. Et quand je me suis réveillée, j'ai demandé très calmement à mes parents « Ça veut dire quoi, Spice Girls ?» Et mon père, il m'a dit avec un « i »,« Spice Girls », ça veut dire les filles épices. Moi, j'étais là « épices ?» Genre du cumin. Bon, j'étais pas tout à fait convaincue par le nom, mais c'est pas grave, une de mes premières grandes histoires d'amour venait de commencer. Alors la question, tu l'as dit, Nagui, quand reste-t-il 21 ans plus tard? Et bah étonnamment, moi je trouve que ça va plutôt bien.
Ah hein.
Bah oui, déjà contrairement à 99% du monde du spectacle depuis quelques années, aucune des Spice Girls n'a pour l'instant été accusée de harcèlement sexuel. Aucune n'est décédée, donc franchement c'est déjà super quoi. Et puis surtout, quand on y pense dans les Spice Girls, il y avait surtout Posh Spice, a.k.a. Victoria Beckham. Et 20 ans après, Victoria et David Beckham, ils sont toujours ensemble, sincèrement. Non mais c'est une des raisons pour laquelle moi, quand je me lève le matin, je crois à l'amour. Une chanteuse et un footballeur, je veux dire. Ils avaient tout contre eux. Piqué et Shakira, moi j'ai envie d'y croire, mais on en reparlera dans 14 ans. Les Beckham, ça fait 20 ans. 20 ans, ils ont 4 enfants, dont l'aîné s'appelle Brooklyn, supposément parce que c'est là qu'ils l'ont conçu. Et c'est là que tu te dis, heureusement qu'il n'y a que les stars qui ont le droit de déconner avec les prénoms de leurs enfants. Sinon, dans toutes les écoles de France, t'aurais des gamins qui s'appellent Pierre et Vacances. Et bref, moi, cette annonce de cette tournée des Spice Girls, ça m'a permis de faire un petit peu le tour de ce qu'elles étaient devenues. Et je me suis dit que si Posh Spice, et toutes les autres Spice d'ailleurs en général, n'ont pas l'air trop malheureuses 21 ans après, même s'il s'est placé plein de trucs pas chouettes depuis 96, notamment j'ai perdu ma Game Boy, le girl power n'est pas mort, donc ça vaut la peine d'essayer de voir le monde avec la même innocence que la première fois que j'ai entendu ça. Yo, elles ont inventé des mots et tout, c'était trop bien. Voilà.
Merci Marina Rollman, merci.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Et Daniel, il va chercher sa fille Kemer à la fin de cette émission.
On va reparler avec Raphaël Persona de ce texte porté, interprété, vécu au Théâtre du Rond-Point. Je le rappelle, c'est jusqu'au 10 décembre et ensuite, ça sera au Théâtre de l'Œuvre à partir du mois de mars.
Ouais,
et absolument. Une tournée peut-être après.
Et une tournée, oui, sans doute. C'est pas encore prévu, sûr, mais oui, il faut.
Ouais,
absolument.
Je crois que c'est important qu'un texte comme ça voyage en France.
Est-ce que les soirs se ressemblent ou est-ce qu'il y a une électricité différente, des humeurs différentes, vous ne mettez pas le même poids sur les mêmes mots, mêmes endroits?
Oui, c'est tout à fait juste. Je redécouvre le texte. Il y a des passages qui suivant les soirs m'apparaissent. J'avais pas vu la poésie d'un endroit et puis surtout comme c'est une adresse directe au public, comme le public change évidemment, enfin j'espère tous les soirs et que je les vois très bien parce que on est dans une salle, la salle Jean Tardieu au Rond-Point qui fait 220 personnes, donc on voit assez bien quand même. Je vois l'écoute, je sens, et d'ailleurs sans voir, on sent quand même une réceptivité particulière chaque soir. Je dois dire que pour l'instant, les gens sont assez. je sens des gens émus. En effet, vous avez raison. Il y a des moments où on rit, on est extrêmement touché, quoi, par les dames de la crèche. Bon, ça c'est assez connu comme passage avec des petits pots de compote comme ça qu'elles amènent aux petits enfants.
Qui sont des tupperwares géants.
Qui sont des tupperwares géants parce que il y a besoin de donner de l'amour d'une manière ou d'une autre. Donc oui, il y a évidemment que ça change. Et puis tous les soirs, j'essaye de retrouver en tout cas ce que je vous disais tout à l'heure, c'est se dire voilà, ce texte, j'en perds la voix, ce texte doit nous entraîner vers la lumière et la beauté absolument, et ne jamais se laisser avoir par le morbide et le pathos.
Et vous n'êtes jamais envahi par l'émotion ?
Ah si, mais j'essaie que de pas me faire déborder. Au début des répétitions,
parce que
je l'étais.
Parce que Antoine a forcément pleuré, évidemment.
Ah ouais, ouais,
il a forcément. On ne sait pas si en écrivant son propre texte, si lui-même n'avait pas les yeux humides de larmes. Donc, de maîtriser aussi, de contrôler, de retenir ses éventuelles larmes.
Parfois, je les contrôle pas. Hein. Parfois, je les maîtrise pas. Et parfois, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs une chose importante, je pense.
Vous ne les forcez pas non plus. Vous n'allez pas les chercher d'une manière mécanique. De comédien
si ça vient
en disant,
pas, ça vient pas.
À tel
c'est
endroit,
pas
il faut que je pleure.
Ouais, le texte est suffisamment puissant, suffisamment fort pour faire naître des émotions assez fortes chez le spectateur. Autre chose, je pense que Léris dit « Vous n'aurez pas ma haine ». Et j'ai vu des choses qui m'ont vraiment énervé sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui disent « Oui, c'est une réponse un petit peu béni-oui-oui de dire « Vous n'aurez pas ma haine », etc. » Sauf qu'ils confondent deux choses absolument étrangères l'une à l'autre. À mon avis, c'est la colère et la haine.
Ouais.
Il a une saine colère.
C'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ce qu'il
le dit d'ailleurs. Il dit, je ne pardonne rien, je n'oublie rien, je ne passe sur rien. Ça ne veut pas dire qu'il pardonne. Pas du tout. Il dit, vous n'aurez pas cette chance que ma colère soit rentrée, que je ne l'exprime pas. C'est une colère absolument saine qui s'exprime. Je peux même vous dire que, à la générale, moi, j'ai une forme de culpabilité à prendre du plaisir comme acteur à dire ces mots. Et puis j'ai analysé ça le lendemain. Je me suis dit, non, mais surtout pas. Avoir cette culpabilité-là de prendre un plaisir d'acteur, donc de faire vivre par ma profession ces mots-là, ça serait là aussi céder à ceux qui veulent, c'est-à-dire nous éteindre, ne plus
nous faire taire,
nous faire taire absolument. Donc il faut absolument prendre du plaisir à dire ces mots, susciter de l'émotion chez le spectateur, et c'est une saine émotion, une saine colère.
On en reparle avec Caroline Langlade, avec son livre chez Robert Laffont, Sortie de secours. D'abord quelques dates mises en musique dans votre carrière. La bande originale de Raphaël Persona, bah oui, votre BO.
C'est un peu oldies, hein, ce que je vous ai préparé.
Votre BO, c'est bien. À chaque fois,
on a fait
ben, même en 2008, il écoutait. You're just too good to be true. La version originale.
Ah ouais. Take my eyes off you.
You'd be like heaven to touch. C'est lesquels? C'est les Four Seasons.
C'est Frankie Valli.
Frankie Valli.
En 2008, on est d'accord, hein, c'est-à-dire
mais je vais,
quelques décennies après.
J'ai une explication à ça.
Hein. Je vous en prie. En 2008, vous êtes dans quel contexte, à quel moment de votre vie?
Bon, ça va pas très bien. J'ai réalisé un court métrage à ce moment-là.
Une virée,
ça s'appelait, qui était vraiment pas très gay, un peu triste. Et c'était cette musique-là. Sur deux frangins, ouais. Sur les rapports qu'il peut y avoir entre deux frangins quand l'un veut écraser l'autre, etc.
Rien d'autobiographique.
Mais bien sûr que non. Et c'était la musique qui résonnait à ce moment-là.
Mais pourquoi celle-là?
Parce que cette version de Frankie Valli est complètement dingue. Parce qu'on connaît évidemment celle de
Boys Town Gang.
Voilà.
Plus disco.
Et ça, je trouve qu'elle a une élégance, ouais, une sensibilité vraiment à part.
Et là, donc vous réalisez ce court-métrage, ça veut dire que expérience heureuse qui donne envie de poursuivre. On est en 2008.
Ah oui, ça donne envie de poursuivre, ça s'est pas fait tout de suite. Là, je vais bientôt concrétiser la chose d'ici un an, a priori, pour réaliser.
Donc là, il y a un long métrage.
Ouais, absolument.
Et c'est de la virée en long métrage?
Non.
Autre chose.
Ouais, autre chose. On en reparlera. Vous m'inviterez une 13e fois.
Je sais pas. Il y a un moment là.
On sait plus quoi raconter.
C'est pour écouter Frankie Valli.
Ouais, c'est ça, les mecs.
On est un peu au bout du rôle.
On est au bout du scotch.
En 2011, vous écoutez Roy Orbison.
Ouais, c'est encore.
La voix de ce mec.
Ah, c'est dingue.
C'est une BO de Lover, hein, Raphaël.
Non, mais en fait, je vous explique.
Attends, écoute-le. Ouais. Voix de velours. Alors, c'est pas la même version que la vôtre, c'est ça?
C'est bon, on dirait du Danny Briand.
Ouais, exactement. j'ai une explication à ça. C'était pas exactement cette version, peut-être une version un petit peu précédente à ça, mais
justifiez-vous.
En fait, j'étais au Tadjikistan.
Ah, je comprends.
Oui, si tu es le Tadjikistan sur une carte.
C'est spécial.
Bien sûr. Ouais.
Voilà.
C'est entre le houmous et le tarama.
Ouais, ouais. C'est un peu grec. J'étais à la frontière afghane, on tournait un film qui s'appelait Force Spéciale. Et je ne sais pas pourquoi, cette chanson est devenue la chanson du tournage qu'on écoutait en regardant les chaînes de l'Hindou Kush et de l'Himalaya. Et il y avait Roy Orbison. Je ne sais pas pourquoi.
En tenant la main de Diane Kruger.
Diane Kruger, il y avait mon ami Denis Ménochet, Magimel.
Oui, mais vous étiez plus proche de Diane Kruger.
C'est pareil quand vous avez avec des parachutistes aussi, vous tenez la main.
Oui, aussi, beaucoup. Voilà, voilà. Beaucoup.
Et ça a été un tournage particulièrement éprouvant.
Oui, c'était assez costaud, oui, parce qu'on était sur la...
Il y avait Diane Kruger et
Benoît Magimel.
On était sur la route de la soie qui est devenue la route de l'opium maintenant, donc c'était une région assez sympathique. Et on était vraiment séparés par une rivière de l'Afghanistan, et on était à 182 km de là où était arrêté Ben Laden 6 mois après. On était vraiment dans une région sympathique.
Ouais, c'est chaud.
Et en altitude en plus, donc j'imagine...
On était à 3005, donc il a fallu un petit temps pour s'habituer. Le plus haut qu'on ait tourné, c'est 5500. C'était incroyable.
Non, et puis c'est un tournage avec des armes, avec des tirs, même de balles à blanc, mais ça doit être bizarre d'entendre des détonations, de voir même des comédiens tomber.
C'est assez déroutant. Hein. On a fait 10 jours d'entraînement avec les forces spéciales à Lorient. Ça a commencé comme ça. Quand vous êtes plongé dans cet univers-là sans vraiment le connaître, ça fait très bizarre au départ.
On sort pas indemne d'un tournage comme ça ?
Non, pas du tout. Et puis surtout d'un voyage comme ça aussi. Parce que le fait de découvrir... après, j'ai eu la chance d'aller au Cambodge pour le cinéma aussi et la Sibérie. C'est sûr qu'une fois que vous avez été au Tadjikistan, vous êtes assez armé pour supporter des choses. C'est vraiment particulier.
Vous êtes sûr que vous voulez pas jouer dans le camping ?
Si, moi, avec plaisir. Mettez un petit slip de bain, on y va. C'est parti.
Le bassin d'Arcachon, ça peut être dangereux.
En 2013... Arcade Fire, vous êtes en 2013. D'abord, vous écoutez la musique pour préparer des rôles. Vous écoutez la musique chez vous, dès que vous mettez un pied par terre en vous réveillant, vous tournez le bouton.
Tout le temps.
Tout le temps la musique.
Ouais, tout le temps. Et cet album d'Arcade Fire, il change vraiment des précédents et je trouvais qu'il se réinventait un peu. Là dernièrement, j'ai moins aimé, mais moi je les ai vus à l'Olympia et j'ai adoré leur mise en scène et tout, la manière dont ils venaient dans la salle par la fosse, etc. Ils englobaient tout le monde avec eux. Je trouve que c'est un groupe assez génial.
Là, vous avez 5 films à l'affiche.
5 films à l'affiche. Et il y en a un en particulier, à mon avis, qui a dû retenir votre attention. C'est le film réalisé par Daniel Auteuil.
Ouais.
Parce que forcément, Daniel Auteuil, pour vous, c'est pas un simple comédien.
Ah non, c'est Auteuil, je sais pas, la première fois que je le découvre, c'est sans doute dans Jean de Florette, et puis après je le vois dans L'Adversaire, enfin je le vois dans des rôles complètement dingues.
Ça, vous étiez fan?
Ah ouais, vraiment fan, Garcia, et j'arrivais pas à... D'ailleurs, les premiers jours, j'arrivais pas à jouer avec lui, je le regardais, en fait, j'étais spectateur, c'était un peu emmerdant, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Non, rien, il fallait que je prenne sur moi pour me dire, je suis en train de jouer avec lui, donc il a fallu s'adapter, mais c'est un homme charmant, et surtout très très aidant, quoi. Je pense qu'il l'a vu, il l'a jamais dit, et puis il m'a aidé, quoi. Il était vraiment très très bien.
Et puis c'est le retour ces années-là dans les 5 films à l'affiche de Bertrand Tavernier.
Et oui.
Avec Quai d'Orsay, qui vous fait à nouveau confiance pour le rôle principal.
Ouais, avec Thierry Lhermitte, Nils Arestrup, il y avait toute une bande géniale, et on se retrouvait là. Alors là où j'avais joué un prince, le duc d'Anjou, etc., qui avait plein de pouvoir, là d'un coup j'étais au service du pouvoir, donc dans un autre registre, et je me faisais humilier tout le temps dans ce film. Et j'ai aimé ça, c'est un peu bizarre.
Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, non, j'ai adoré, ouais. Ça. Et puis on a tourné dans des lieux incroyables.
On va appeler Père Albert, il faut quand même qu'il s'occupe de lui.
Non, pas lui. J'ai peur. Non, mais on avait tourné à l'Assemblée nationale, on a tourné à l'ONU, on a quand même tourné à New York dans l'enceinte de l'ONU. Hein. C'était incroyable. On avait accès à des choses Non, c'était fou. C'était un très très bon tournage, ça.
Raphaël Persona porte le texte « Vous n'aurez pas ma haine », c'est au Théâtre du Rond-Point. Caroline Langlade est à nos côtés. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous venez de publier chez Robert Laffont « Sortie de secours » avec volontairement « Sortie de secours » au singulier ou au pluriel. Chacun peut y voir évidemment ce double sens. Ce qui m'importe après le 13 novembre est de réparer les vivants. Dites-vous, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment allez-vous ?
C'est une question qu'on me pose énormément et à laquelle j'ai pas trop de réponses. Je suis là, j'essaye de faire avec, quoi. Enfin, c'est très étrange. Ça fait 2 ans que je passe un espèce de tunnel émotionnel où je me rends compte que j'ai la chance d'être encore en vie. Et en même temps, cette vie, elle a plein de choses qui sont différentes, avec lesquelles j'apprends à composer au quotidien. Donc voilà.
Vous êtes resté 3h30 le 13 novembre, enfermé dans une loge du Bataclan, à vous protéger des terroristes, des assassins et des criminels. Cette loge, vous étiez dans la salle, parce qu'une loge est généralement est réservée aux artistes, aux musiciens ou aux techniciens. Qui vous a prise par la main, qui vous a emmené ?
En fait, au moment où les tirs commencent, je comprends pas du tout ce qui se passe. Et au bout de quelques minutes, mon compagnon, qui est allongé par terre, relève la tête et se rend compte que je suis toujours assise. Et donc, il me prend la main, il me tire, il me dit « il faut qu'on se barre, c'est grave ». Et on commence à ramper sous le feu des balles. Il y a 2 terroristes qui sont montés à l'étage. On rampe, on arrive dans le couloir. On veut aller vers l'issue de secours qui donne sur le passage rue Amelot. Et au moment où je descends les escaliers, je me retrouve nez à nez avec un des terroristes qui est en bas. Et donc, on est pris en étau, on se réfugie dans une loge où on passe 3h30 à 40 dans 7 mètres carrés.
Vous écrivez dans ce livre que la première fois où vous avez lu le texte « Vous n'aurez pas ma haine », ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai peut-être mal dit, d'ailleurs je voudrais l'entendre de votre bouche, vous avez posé cette question « Pourquoi moi ?»
Oui, ça a été difficile pour moi. On a tous cette culpabilité du survivant. Moi, elle est venue se loger dans quelque chose de très étrange, hein, c'est n'ayant pas d'enfant. Pour moi, je volais la vie d'un parent, en fait. Je me rappelle que c'était très douloureux, j'avais beaucoup de mal à vivre avec cette culpabilité-là. Et puis un jour, je perds ma grand-mère. Et le soir de l'enterrement de ma grand-mère, je reçois un coup de téléphone que j'attends depuis des semaines. Ce coup de téléphone, c'est Antoine Léris qui me le passe. Antoine veut me rencontrer, il a des choses à me raconter, il est en train de préparer un projet documentaire. On se voit et Antoine, à un moment donné, on commande, on est au restaurant, nos plats sont en train de refroidir, on fait que fumer des clopes, on fume, on est dehors, enfin oui, je sais, c'est pas bien du tout. Et à un moment donné, je dis à Antoine, tu sais Antoine, c'est terrible pour moi d'être face à toi. Je pense à toi tout le temps, je me dis mais c'est pas possible, pourquoi moi je suis là alors que toi, ta femme n'est plus là, alors que vous avez un enfant. Et Antoine me dit mais en fait, personne n'aurait dû disparaître ce soir-là. Il n'y a pas quelqu'un plus qu'un autre, personne.
Tout ouais, ça, y a c'est pas énorme. Une échelle d'importance voilà, humaine.
Et Antoine m'a fait énormément de bien. C'est quelqu'un qui a rayonné pour la première fois. Ça a été le premier texte que j'ai lu sur le 13 novembre, sur ce qui se passait. Et ça a été le premier écho d'une voix dans cette espèce de noirceur, de brouillard intense. Une voix humaine qui résonne dans sa force, dans son humanité, dans sa beauté, en fait. Je me revois lire ce texte sur Facebook, être à côté de mon compagnon et lui dire « on n'est pas tout seul ».
Alors justement, on n'est pas tout seul et l'association Life for Paris est là pour aider les victimes de cet attentat parce qu'il y a un suivi très important psychologique à avoir. Il faut parler, échanger le vécu de chacun l'après.
En fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte très rapidement que le 13 novembre est un énorme puzzle et que chacune des personnes qui a été touchée est une pièce de ce puzzle. La mémoire, en fait, traumatique, a effacé tout un tas de choses parce que trop violent, parce que pas possible, parce que les gens avaient les yeux fermés, étaient coincés dans des endroits dans le noir et compagnie. Et donc, du coup, chacun, en arrivant avec son récit...
C'est pas totalement effacé, c'est recouvert d'une chape de plomb, mais c'est toujours là.
Voilà,
c'est
tout à fait.
Toujours là.
C'est enfoui, ouais. s'est enfoui en fait. Mais donc du coup, chacun arrive avec sa pièce de puzzle de son souvenir qui vient s'emboîter dans le souvenir de quelqu'un d'autre, et on arrive petit à petit à reconstituer en fait cette fameuse soirée pour mieux comprendre la temporalité, mieux comprendre l'espace de ce qui s'est passé autour de nous, la construction du récit. Et donc on passe d'un récit individuel à un récit collectif. Ensuite, petit à petit, avec Maureen Roussel, la cofondatrice de l'association, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres demandes qui émanaient de la part des gens qui nous avaient rejoints. Il y avait ce besoin effectivement d'être accompagné dans leur démarche, dans l'aide qu'on pouvait apporter aux personnes. On sentait qu'il y avait une vraie souffrance, qu'il y avait des choses qui pouvaient les aider, un suivi psy, des suivis physiques et compagnie, mais pour accéder à ces aides-là, c'était un peu le parcours du combattant. Et donc du coup, notre association s'est attachée vraiment à suivre ces personnes et on s'est occupé de 750 personnes pendant 2 ans.
Est-ce que c'est important pour vous d'aider les autres? Est-ce que ça vous aide aussi, vous?
Moi, ça m'a nourrie. C'est-à-dire, je le dis, ce soir-là, j'ai perdu une part de moi. J'ai laissé la moitié de moi-même. J'ai d'abord pensé que c'était la veste que j'avais perdue, que j'ai retrouvée après grâce à un policier. En fait, cette partie-là, c'était pas cette veste. Cette partie-là, c'est mon innocence, c'est ma foi en l'humanité qui est indéfectible. Enfin voilà, c'est tout ça. Et cette partie-là, il a fallu la nourrir parce qu'elle était vide, elle était morte. Et donc, elle a été nourrie par les autres, elle a été nourrie par tout l'amour inconditionnel que j'ai donné, mais que j'ai reçu aussi en retour. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, j'y tiens. C'est devenu ma famille, ma deuxième famille, un peu bordélique, un peu fun, un peu rigolote. On s'engueule sur du rock, on n'est pas content. Un tel nous explique que, bah oui, mais lui, il est à telle terrasse, donc il s'en fout du rock, donc ça commence à suffire qu'on fasse chier avec le rock. Et c'est ça qui est magnifique, et je trouve ça super, en fait.
Ce qui est totalement incroyable et encore plus triste, c'est qu'il y a les victimes de l'attentat du 13 novembre, mais il y a des victimes qui continuent d'avoir après. Et ça, c'est absolument affligeant, c'est-à-dire qu'il y a que l'attentat résonne encore et continue de tuer après le 13 novembre. Expliquez-nous.
En fait, tout le monde nous dit « Ah bah ça va, t'as de la chance, t'es sorti vivant, voire t'es sorti carrément pas blessé, donc c'est génial. En fait, t'es chanceux. » Non, pas vraiment. Déjà, je souhaite à personne de vivre ce qui nous est arrivé, c'est terrible. Et puis, en fait, on se rend compte que le traumatisme peut déclencher derrière un état de stress post-traumatique dans lequel le corps va s'abîmer, va commencer à s'écrouler au fur et à mesure du temps.
Ça déclenche des cancers, des maladies de la peau.
Ça déclenche des maladies de la peau, des maladies de Crohn, des scléroses en plaques. Ouais. Et puis tout un tas de désordres physiques en fait qui sont très fatigants à gérer au quotidien. Et donc nous, dans notre association, on a perdu 5 membres en l'espace de 2 ans.
Et même des personnes qui sont suicidées.
Il y a une personne qui s'est suicidée pour une dépression aggravée parce que une personne vivant à l'étranger qui est rentrée chez elle, qui n'a eu aucun soin psychique, qui n'a pas eu d'accompagnement et qui a été dépassée par sa douleur en fait, qui n'a pas pu survivre à ça. Donc moi, je dis toujours aux gens, en fait, oui, on a un sursis, mais on a aussi cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête.
Et on peut en guérir de ce stress. Et c'est un peu avec ce livre ce que vous cherchez aussi à apporter.
Oui, effectivement, il y a plein de choses possibles. Moi, je crois toujours.
D'où est sa sortie de secours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la sortie de l'attentat. Il y a plusieurs sorties et plusieurs secours à porter.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un vrai espoir, que cet espoir, il faut le porter. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une dame incroyable qui s'appelle Françoise Rudetsky, qui a mené ce combat-là pendant 30 ans de sa vie. Grâce à qui on a énormément d'aide aujourd'hui. Nous, on s'est battu pendant ces 2 années pour continuer de débloquer des aides, pour continuer d'arriver à obtenir des soins nouveaux. Et il y a beaucoup de choses à faire, c'est perfectible, mais on peut en guérir et cet espoir-là, il doit être porté.
Et comment vous accompagnent les pouvoirs publics? Parce que sont censés être là et très très présents. Qu'en est-il?
Et qu'il n'y a plus de ministère qui s'occupe justement de ce problème-là.
Il y a une déléguée interministérielle qui a été nommée. Bon, on a changé 5 fois d'interlocuteur en l'espace de 3 mois. Ça a été un petit peu compliqué. Après, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent le 13 novembre pour les commémorations. Mais après, dans le quotidien, dans la durée, c'est plus compliqué. Donc, moi, je salue le travail vraiment d'une fédération d'associations qui s'appelle France Victimes, qui fait un boulot formidable de terrain. On a besoin de ces gens-là, en fait.
Ça s'appelle Sortie de secours, Caroline Langlade le signe avec une préface de François Hollande, c'est chez Robert Laffont. Merci d'être venu apporter votre sourire et votre témoignage dans cette émission. Donc on continuera de parler avec Raphaël Personnage Camille Ennemi de ce texte qu'il porte au Théâtre du Rond-Point. Tanguy sera là également.
Bonjour
Tanguy, à midi 10. Vous voulez nous parler de l'écriture, mais de l'écriture de Christophe Castaner qui se met à l'écriture inclusive.
Oui, il a rédigé des documents en inclusif, hein, cette méthode d'écriture qui consiste à dire que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin. On n'écrit pas bande de cons, mais bande de cons.n.e.s si on s'adresse par courrier à des membres de sa famille avec qui on se dispute l'héritage de mamie. Et l'inclusif, évidemment, ça fait des banagues.
Très bien. À tout à l'heure, Tanguy Pastureau. Pour Raphaël Personnin, d'une cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courtes, Leïla.
Raphaël, l'actrice avec qui vous aimeriez jouer une comédie sentimentale?
Je me regarde pas.
Courte, ça, j'en sais, Nagui.
Non, une actrice.
Pardon.
Escroc, celui-là. Bon, continue, tu réfléchiras après.
Oui. Daniel Morin.
Vous êtes plutôt café crème ou cappuccino?
Le vieux dragueur pervers.
Café crème.
Marine Harolman.
Vous aviez dit que vous étiez sur le point d'abandonner. Vous auriez exercé quoi comme métier?
Je sais pas, je voulais faire du commerce d'huile d'olive.
Huile d'olive grecque.
Ah, grecque,
ouais.
Oui, évidemment. Tom Mila.
Ça peut arriver des fois au théâtre de pas avoir envie d'aller jouer. Vous avez peur de ressentir ça un jour en jouant ce texte?
Ouais, j'ai peur de le ressentir.
Daniel, mais... pardon.
Je pense pas, pardon. Ouais.
Daniel Morin.
Martini ou Malibu?
Quel ringard!
Raphaël Personnage, notre ami des non répond pas. Non répond rien,
juste
midi et demi. Soyez bienvenus avec Leïla Kadobou-Dadi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Tanguy Pastureau. Tom Villa. Daniel Morin.
Bonjour.
Et notre invité Raphaël Persona. Vous donnez votre voix à ce texte, à ce témoignage d'Antoine Léris. Ça s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine ». Ce texte, la première fois que vous l'avez lu, vous l'avez dit, c'était comme nous tous sur Internet, la force de ce texte, qui a été lu aussi par André Dussolier dans une version audio lorsque le livre est sorti. Vous l'avez d'ailleurs écouté, cette version?
Non, parce que j'aurais peur d'être influencé. J'adore André Dussolier. Je l'ai vu dans Novecento, d'ailleurs, au Rond-Point, là, il y a peu de temps.
Formidable.
Il est extraordinaire. Donc, j'aurais peur.
Alors, justement, qu'est-ce que l'on peut apporter de soi à ce texte? Est-ce que, d'un coup, vous identifiez au papa, vous vous dites, si j'étais Antoine, si j'étais dans sa situation, et que donc, j'ai cette même pensée, comment je l'ai vécu? On apporte de son vécu personnel aussi?
Oh, oui, sûrement, et particulièrement là, puisque... moi, c'est des événements que j'ai vécu comme nous tous autour de la table d'assez près.
En se demandant, et si c'était moi? On se pose cette question.
Et si j'y étais, comment je réagirais? Si j'avais laissé un être cher là-bas, comment je réagirais? Oui, bien sûr, il y a tout ça. Mais je crois qu'il y a surtout, j'ai l'impression dans ce texte-là, que j'ai pas voulu, trop conscientiser les choses. La part de l'inconscient est tellement forte, ça nous habite vraiment tellement fort. On n'a qu'à voir, les cérémonies du 13 novembre nous touchent tellement. C'est fou. Enfin, moi, je voyais les images du président avec les noms égrenés. Je tiens pas, j'arrive pas à le regarder. Je revoyais ce petit enfant, je sais pas si vous vous souvenez, qui avait été interviewé le lendemain, qui disait on va mettre des fleurs et ça va aider contre... Mais tout ça, ça nous reste tellement en mémoire que, en fait, tous ces moments-là, tous ces moments aussi qui sont apparus après l'horreur. Donc ce petit garçon là, je l'ai revu. Cette vieille dame qui parlait de Paris est une fête. Tous ces moments là en fait restent. Et j'ai l'impression que le texte d'Antoine Léris nous dévoile aussi tous ces moments de vie comme ça. Donc en fait ça apparaît un peu inconsciemment.
Et c'est la vie qui prend qui est plus forte que tout. C'est la vie de ce petit bonhomme, de cet enfant de 17 mois au moment des attentats, donc de 3 ans et demi aujourd'hui, c'est ça,
c'est ça.
Un peu plus de 3 ans en tout cas aujourd'hui. C'est lui qui est le plus fort de tous aussi, parce que c'est lui qui porte Antoine. Peut-être que si d'ailleurs ce petit bout de chou n'était pas là, tout ça aurait été différent aussi dans le texte, dans l'écriture et dans, la gestion du drame.
Ouais, parce qu'Antoine Meris, il a pas le choix. La nuit du drame, il tourne sur le périphérique en voiture. Il va voir les différents hôpitaux. Il a le nom de sa femme n'est pas encore sur les registres. Et puis ce qu'il arrête, c'est qu'à 7h du matin, il doit rentrer à la maison parce qu'à 7h30, il y a son enfant qui prend son biberon. Et ça n'attend pas.
Il est déjà retenu chez lui parce qu'au moment des attentats, il ne peut pas partir pour aller voir ce qui se passe parce qu'il doit rester là.
Il a son enfant.
L'enfant est là,
il peut pas crier, il peut rien faire, il est complètement... Et après, tous les jours, il doit emmener son petit garçon à la crèche.
Faire bonne figure,
lui annoncer, même si l'enfant voit tout et comprend tout.
Et moi, ce qui m'a touché dans le texte, c'est que Hélène... finalement, elle est tout le temps là. Les seuls moments où elle n'est pas là, c'est comment, par son absence, elle est encore plus présente. Les seuls moments où elle n'est pas là, c'est quand Antoine ne sait pas ce qu'elle est devenue. Le reste du temps, Antoine passe son temps, par la bouche de Raphaël, à dire que, on l'a prise avec nous. Elle est avec nous. Et je trouve que ça, c'est ce qu'il y a aussi de plus fort dans ce texte-là. C'est comment on la voit quasiment sur scène, même si
moi, je pense à la pianiste qui est derrière le voile. Ils reviennent du cimetière avec elle aussi.
Ils reviennent parce que le petit l'a récupéré avec elle. Voilà, ils vivent encore tous les trois. Et je trouve que dans la simplicité de la scénographie, avec cette présence de cette femme, cette pianiste derrière ce voile-là, on pense à elle et on la voit parmi nous, en fait. Et je trouve que ça, c'est aussi ce qui est très très émouvant, c'est ce qui moi m'a vraiment pris aux tripes.
C'est un vrai texte sur au-delà du Bataclan, au-delà du drame, sur l'absence, sur le deuil, et une absence extrêmement présente en effet.
Ouais.
Raphaël Persona.
Bravo, on l'a pas assez dit à Raphaël. Bravo.
Pardon.
Bravo à Raphaël.
Il a l'élégance.
Il a l'élégance
sur scène que Antoine Léris a eu sur le papier en écrivant ce texte. Vous n'aurez pas ma haine au Théâtre du Rond-Point, donc jusqu'au 10 décembre. Et puis l'année prochaine, ça reprendra au Théâtre de l'Œuvre à partir du 2 mars jusqu'au 14 avril. Et puis d'autres dates viendront s'ajouter. Espérons aussi en province parce que ce n'est pas une affaire de Parigot, loin de là.
Ouais.
Sur France Inter, voici celui qui maltraite l'information, Tanguy Pastureau. Tanguy. Donc Christophe Castaner est le politique à la mode.
Oui, il y a 7 mois, personne ne le connaissait. Et là, c'est une star, car ça a été le premier à rejoindre Macron lorsque l'autre n'était qu'un ado avec cette sébum qui sentait le Biactol et les roulés. Quand la France entière riait de Macron, lui, il y croyait. Il a du nez, voulait montrer la patte arrière d'un poulain en train de sortir de l'utérus de sa mère. Il vous dit, mon pote, celui-là, dans 2 ans, il remporte la 3e à Longchamp. Castaner, dès 2014, y portait des claquettes avec des chaussettes. Et il chantait Despacito il y a 9 ans. Une fois Macron élu, forcément, il a eu un job, porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire qu'il s'exprime à la place des autres, comme Didier Deschamps dans le foot, parce que c'est le seul qui sait faire des phrases. Une fois la semaine, il se met derrière un pupitre, dit « Bonjour, je vais vous parler de Nicole Belloubet ». Les journalistes répondent « Qui ça ?» Il dit « Bon, Florence Parly alors ?» Les journalistes répondent « Non plus hein, ». Castaner demande « Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture ?» Non, hein, bon, ok. Et donc, il parle de Nicolas Hulot, seule star de sa brochette d'anonyme. Hein, les ministres sont tellement peu connus que quand Muriel Pénicaud rentre chez elle, son mari lui dit « T'es belle, toi, viens, entre, on va faire l'amour, ma femme est pas là. » Muriel Pénicaud est ministre du Travail, hein, si vous voulez noter sur
c'est
un coin de feuille. Bref, Castaner, c'est la nouvelle star. Et il n'a même pas eu besoin de faire chialer Cœur de Pirate en revisitant Mon Vieux de Daniel Guichard pour avoir ce statut. Il s'apprête en plus à devenir chef du parti La République En Marche, le RUM. Et il est le seul candidat en lice. C'est le Robert Mugabe blanc. La cisplante, il peut ouvrir un coffre dans les îles Caïmans juste pour se planquer dedans de honte. Mais bon, il joue le jeu, il fait comme si c'était démocratique. C'est une sorte de Kim Jong-un qui serait dans le déni. Et il a rédigé une profession de foi en écriture inclusive, hein, ce qui fait débat dans le pays, puisqu'on est une nation d'amoureux des lettres. Le rappeur Jul, par exemple, aime le A et le B. Après, il sait pas. Alors, l'écriture inclusive, ça part d'un constat, celui que nous, les mecs, dominons depuis toujours. Hein, dès Néandertal, l'homme disait à la femme, bébé, occupe-toi du feu, je vais chasser le mammouth. Puis, il voyait le mammouth, revenait, il disait finalement, je vais peut-être gérer le feu. Hein, c'était Koh-Lanta, mais en moins cruel, parce qu'il n'y avait pas ce salaud de Denis Brognard pour t'éteindre ta torche.
Bon, donc l'écriture inclusive permet de faire plus de place aux femmes.
Mais oui, puisqu'au lieu d'écrire « cher tous » avec le masculin qui prime, on écrit « cher.e.s, tous.t.e.s ». Donc masculin et féminin dans le même mot. Pour ceux qui sont payés au signe, c'est génial. 9 lignes normales, là, ça vous fait un feuillet. Après tout, le fait que le masculin l'emporte, C'est juste une convention sociale. Hein, les types se sont réunis, se sont dit on a un pénis, ce qui ne présente aucun avantage. C'est pas beau, si on fait du poney, on est mal installé. Quand nos descendants en 2017 consulteront le fil Instagram de Zaya, ça prendra de la place dans le calcif. Être un mec, c'est nul. On va se venger en faisant une OPA sur la langue française. Et donc, on parle de l'homme avec un grand H, hein, ce qui inclut la femme, qui est aussi peu représentée dans la langue que dans le panel des gens qui regardent Top Gear France sur RMC Découverte. Donc là-dessus, le pays est donc divisé, comme sur tous les sujets, hein, comme d'habitude. On a déjà passé 2000 ans à se battre et se disputer. Je pense que la France a été construite sur un ancien cimetière indien qu'on est maudit. Blanquer, ministre de l'Éducation, est contre l'écriture inclusive, mais en face, 300 profs se sont engagés à ne plus enseigner la règle de grammaire avec le masculin qui l'emporte. Donc Blanquer, c'est autorité niveau zéro. Hein, il se fait plus piétiner qu'un GR. C'est comme si un bidas disait à Florence Parly, ministre des Armées, dis donc, cocotte, d'abord, qui es-tu ? Et ensuite, au Mali, plutôt qu'un fusil mitrailleur, je me testerais bien sur un lance-pierre, je le sens comme ça. Donc des élèves vont écrire en inclusif, d'autres non. Hein, déjà qu'on a du mal à se comprendre avec une seule règle, mais là, ça va être un tel souk qu'il va falloir appeler BHL pour qu'il décide comment rétablir la paix, c'est-à-dire qui il faut exécuter. Bernard Pivot s'est déclaré contre l'écriture inclusive. Marc Lévy lui a répondu en lui disant « Moi, je suis pour, ça va se finir à la baston à coups de stylo-plume derrière l'espace culturel Leclerc de Clichy, Castaner rédige en écriture inclusive, Blanquer est contre, Gérald Darmanin s'en fout, il n'écrit pas encore, il est trop petit. Donc chacun fait ce qu'il veut, freestyle. Hein, la langue, c'était le dernier truc qui nous rassemblait. Alors cher.e.s, ami.e.s ou ami à l'ancienne avec le masculin qui prime, moi j'arrête le français, c'est trop compliqué, désormais je grognerai groumpf.
Merci Tanguy Pastureau.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Justement, puisqu'on parle de la langue française avec Tanguy Pastureau, vous parlez de cette langue écrite par Antoine Léry, c'est par le choix des mots. Ces mots prennent une dimension insoupçonnée, c'est-à-dire que de les lire, ils ont une autre et de les porter une autre résonance que celle que vous leur donniez. Vous avez dit tout à l'heure, le choix des mots est très important dans l'écriture d'Antoine.
Ouais, il y a même un moment où il dit j'ai pas envie de parler au soutien psychologique parce que j'ai l'impression qu'ils veulent me prendre mon malheur. Le voler, lui appliquer un baume de formule toute faite et me le rendre dénaturé, sans beauté, sans poésie, insipide. J'aime beaucoup cette idée d'arriver quand même à mettre sur des mots qui sont un rempart contre la souffrance, quand même de la beauté et de la poésie. Et ça, je le ressens chaque soir, justement, le redisant, je redécouvre des instants qui sont vraiment, il y a extrêmement lyriques, très très poétiques.
À ce même micro, en début de semaine, Guillaume Gallienne nous disait qu'il avait arrêté de jouer Lucrèce Borgia parce que c'était un rôle éprouvant. Je me demandais, quel est l'impact des mots sur vous, sur l'individu, tous les soirs, au quotidien, là c'est le début à Paris, mais...
Fini Lucrèce pour vous.
Comment ?
Fini Lucrèce Borgia.
Lucrèce Borgia, non mais non. Je suis avec Lucrèce
c'est là. C'est, là, c'est encore mieux.
Eh, pas mal. Non, mais en fait... Je le trouve pas. Enfin, évidemment qu'il est éprouvant sur le moment, mais il y a une satisfaction artistique vraiment à le faire. Il y a l'impression d'avoir une vraie communication avec le public et que c'est important. Donc, et en fait, ces mots moi-même me libèrent parce que j'ai ressenti de la douleur comme tous. Et elle disait tout à l'heure, Madame Langlade, si je dis pas de bêtises, que ces mots lui avaient fait du bien. Donc moi, ils me font du bien tous les soirs parce qu'en fait, c'est un traumatisme assez important en fait. Mm-hmm. Donc pour l'instant, enfin, je ne peux pas me prononcer au bout de 200 fois, mais c'est important de le faire. Ouais.
Il y a une phrase, un passage que vous avez en tête par cœur qui
est... Là, le premier qui me vient, mais il y en a beaucoup, ça fait partie de la lettre sur Facebook, c'est quand Antoine Léris dit « Voilà, mon enfant, Melville, il a 17 mois à peine, et comme tous les jours, il va prendre son goûter. Et je vais jouer avec lui comme tous les jours, et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car non, vous n'aurez pas sa haine non plus. » Voilà, c'est un petit passage.
Ah ouais, un beau passage. Au Théâtre du Rond-Point, vous n'aurez pas ma haine, portée par Raphaël Personnage jusqu'au 10 décembre. D'autres projets, d'autres envies, vous avez parlé de votre long métrage, qui a un titre d'ailleurs, ou ne serait-ce qu'un titre de travail ?
Ouais, mais pas terrible. Non, vraiment, je reviendrai une 14e fois pour vous parler
quoi,
du titre.
Il s'appelle quoi, X215 ou il a un titre
X215.
Non, mais non,
belle info.
Non, il a un titre.
Non,
il a un genre. ce film.
Oui, oui, une comédie dramatique, le truc qui veut rien dire. C'est dramatique et c'est comique en même temps.
On n'en tirera rien.
J'essaye. J'ai une petite info comme ça, glanée.
Le casting peut-être. Là, en revanche.
Non plus. Non, mais c'est dans trop longtemps. Mais je viens de tourner un film, si vous voulez, on peut en parler. C'est un film de Ralph Fiennes, un film anglais, sur Rudolf Nureyev. Voilà le danseur. Et moi, je joue Pierre Lacotte, qui est un chorégraphe de ces années-là et qui a aidé Nureyev à rester en France en 1960. Donc, j'ai joué avec Voldemort.
Et j'ai pas mal. Ah ouais. C'était chic. Personne grata.
Oui. Faut qu'il change ce titre, quand même. Non.
Personne non grata.
Personne non grata.
Bah ouais.
Non. Moi, j'aime beaucoup le titre.
Ça veut tout dire.
Raphaël Persona, Personne non grata.
J'étais pas du tout, je ne réalise pas tout de suite, mais le vendredi,
il n'y
a pas que vous.
Non, mais vous n'êtes pas le nombril de ça, c'est mon ego qui me fait parler. Non, mais c'est un très beau titre.
Personne grata, c'est un très beau titre.
Ouais, non, je suis d'accord.
Vous avez pas,
je disais.
En fait, vous n'avez pas suffisamment vécu le non, vous rentrez pas en boîte de nuit que certains garçons ont vécu. Vous laissez rentrer partout. Ben ouais,
non, rien du tout.
Mais ouais,
non, il doit être chiant, lui. Non, je rentre pas.
Et ça, c'est Roche Dizem qui réalise.
Ouais, absolument.
Et l'histoire, à peu près?
Je n'ai pas le droit, mais j'ai aucun droit. J'ai pas le droit de parler de ça.
Très bien.
Je suis désolé.
Laissons faire maintenant Daniel Morin avec son rêve. Lui, il a le droit.
Oui, j'ai le droit. Oui. Ah, nom de Dieu, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon de temps en temps, comme aujourd'hui, de recevoir un beau gosse. Ouais, Raphaël, vous êtes beau et je vous en remercie. Merci d'apporter un peu d'esthétique, un peu de glamour dans ce studio. Oui, souvent on a de l'invité au physique lambda, de l'invité au physique banal, tout au plus souriant, quelquefois affable, mais beau. Non, c'est très rare. Alors bien sûr, il y a Nagui. Oui, mais Nagui, il est pétillant, il est pas beau. Non. Autour de cette table, je me sens très seul. Je me sens si seul. Alors bien sûr, il y a le public qui souvent est d'une laideur absolue et du coup, ça rend un peu moins à l'aise mes collègues, mais il n'y a pas de quoi pavoiser non plus. Et croyez pas que pour moi, c'est facile de vivre une vie de beauté, non. Souvent, quand je rentre chez moi, après avoir péniblement écarté la foule rassemblée au bas de mon immeuble qui vient me prendre en photo, essayer de me toucher, eh bien, je me vaute sur mon canapé en imaginant que je suis d'un physique quelconque. Ah, ça doit être reposant pour notre rédacteur en chef, Jean-Baptiste Bussière, d'avoir un physique comme le sien. Et il est pas moche, attention, il est pas moche. Il est juste passe-partout. Voilà. Ni beau, ni hideux, il traverse la vie comme un douanier en civil, sans que personne ne le remarque quand il passe ou ne l'écoute quand il parle. Parfois, vous savez, Nagui, Jean-Baptiste Bussière, eh bien, j'envie sa transparence.
T'es salaud.
Ouais. Très souvent, ce vague à l'âme se transforme en sommeil. Et moi, quand j'ai sommeil, je ne résiste pas, je m'endors. Et quand je dors, je rêve. Dans mon rêve, je suis heureux. Je suis en compagnie de personnes au physique détonnant de beauté. Nous nous amusons comme des fous. Cache-cache, balle aux prisonniers, on chahute, on stakine, on fait l'amour. Bref, des relations de camaraderie entre gens attirants. Puis, d'un seul coup, je suis tiré de mon sommeil. Tiré de mon rêve par la radio. Europe 1. Oui, c'est moi leur dernier auditeur. C'est moi le dernier. Donc voilà, je les écoute.
Okay.
Radio qui raconte les mésaventures d'un autre beau gosse, Cyril Lignac. Cyril Lignac, qui, quand il ne fait pas l'amour à des comédiennes, est jury dans l'émission Le Meilleur Pâtissier. Et cette semaine, Cyril a une réaction étonnante quand il a jugé le gâteau d'un des candidats. Quand Cyril s'est penché sur le trianon recouvert d'un glaçage miroir et d'une plume en chocolat de Clément, n'en revenant pas de la beauté du gâteau, il s'est mis à pleurer. Oui, il a pleuré en disant au candidat « C'est du beau travail. » Et là, je suis ému parce que dans la vie, c'est dur. Il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras. C'est jamais facile. Hein.
Wow.
Il ne ferait pas une petite déprime, c'est vrai. Il faut être méfiant. Alors, pour en avoir le cœur net, j'ai changé de radio, histoire d'avoir de vraies infos. Et ma crainte s'est confirmée. France Inter, flash spécial, l'émotion ne retombe pas pour Cyril Lignac après avoir craqué dans l'émission Le Meilleur Pâtissier. Le chef à l'accent insupportable va de rechute en rechute. Hier soir à table avec l'équipe de l'émission, quand Mercotte lui a passé son joint, il a fondu en larmes en disant « C'est du travail, bien fait, putain, ce qu'il est bon, parfait ce pétard, je suis super ému. Non, pas parce que quand t'es bourré, c'est pas facile de rouler un spliff comme ça. Faut pas baisser les bras, jamais baisser les bras. Allez, maintenant, je vais goûter. » Quelques heures plus tard, quand il est remonté dans sa chambre, on l'entendait, ou l'attendait plutôt, nu sur son lit, un mannequin offert par la direction de M6.
Royal.
Il a craqué. et a craqué en pleurs en déclarant « C'est du beau travail. Mon Dieu, l'émotion. C'est beau, bordel. Il est parfait, ce corps. Il est parfait. Il n'y a rien qui dépasse, sauf ce qui doit dépasser. Et ça, c'est jamais facile. C'est hyper dur. Allez, maintenant, je vais goûter. » Cyril Lignac est depuis ce matin en désintox dans un établissement où la drogue est interdite et le personnel est moche. Allez, Cyril, on se reprend. On arrête de chialer devant les gâteaux. C'est pas sérieux. Bon,
merci, Daniel Morin. Bravo.
France Inter, la bande originale avec Maggie.
Samedi, dimanche, sur Inter, tu dis bon week-end, mais tu bosses,
toi? Ben, je bosse, oui, évidemment. Le best-of, 17h-18h, et vous les femmes, 17h-18h, le lendemain dimanche.
Oh oui.
Exactement. Avec Marina Carabancos et Juliette Arnaud dimanche.
Parfait. Raphaël, vous jouerez ou pas la pièce Scène de la vie conjugale
Oui, oui, bien sûr. Je vais la jouer en tournée à partir du 11 décembre jusqu'au 18 février.
Vous
dans
étiez venu ici
avec Laetitia Castel.
En parler et la présenter, exactement. C'est le même casting?
Le même.
D'accord. Ouais. Vous avez une envie de collaboration, de travail avec justement un auteur, un metteur en scène. Je parle de théâtre là uniquement.
Jo van Hoof. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un metteur en scène génial.
Jo van Hoof, sinon qui a fait les Danais.
Voilà, les Danais, qui a fait Vue du Pont. Enfin c'est le premier nom qui me vient comme ça.
Très bien.
Pomera.
Pomera. Comme ça. Ouais. Je pense que Joël Pomera.
Et Benjamin Guillard, qui j'adorerais retravailler, qui est le metteur en scène de cette pièce. Et
vous en avez un quatrième que je connais.
Flagornerie.
Ostermeyer.
Et quoi?
Ostermeyer.
Oui, Ostermeyer. Allons-y.
Vous n'aurez pas ma haine, justement mise en scène par Benjamin Guillard, avec la composition musicale d'Antoine Salaire, je ne l'ai pas dit, au piano, c'est vrai qu'elles sont deux, c'est soit Lucrèce Sacella, soit Donia Beriri, qui accompagne derrière ce voile pudique Raphaël Persona sur scène au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 10 décembre, puis à partir du 2 mars 18, ça sera au Théâtre de l'Œuvre. Des excuses à présenter, Daniel.
Déjà, désolé pour Raphaël. On a eu la direction tout à l'heure, la direction de France Inter à la pause, qui nous a expressément demandé de ne plus vous inviter dans cette émission. Fini, basta, terminado, ils en ont marre de vos BO pourris. Et pour être honnête, Nagui ne vous a pas vraiment défendu. Désolé pour Madame Nagui qui a découvert ce matin que contrairement aux excuses qu'il avait données pour expliquer ses absences, son mari n'était pas au théâtre cette semaine à 18h30. Faut pas vous inquiéter, Madame Guy devait sûrement être au travail quelque part. Voilà, voilà. Désolé pour Noël Gallagher qui aurait mal pris ma légère critique concernant son nouveau titre. Je tiens à dire que c'était un texte de Nagui qui m'a obligé à lire.
Merci Raphaël et bravo.
Merci beaucoup.
Portez-vous bien. On se retrouve lundi avec Anne Fontaine et
Finnegan Oldfield.
Et Finnegan Oldfield qui seront nos invités pour Marvin et pas Melville. Marvin ou La Belle Éducation, ça sera lundi dans la bande originale. Passez un bon week-end avec Daniel Morin, entre autres, à suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci.
Merci la bande, merci Nagui, à lundi.